Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Dieu nous montre le modèle du don à l'audience générale ce mercredi. Benoît XVI approfondit le thème de l'incarnation de Jésus. Vous l'entendrez dès le début de ce magazine. Une affaire qui risque de relancer la polémique sur la pédophilie dans l'Église. La conférence des évêques d'Allemagne rompt avec un institut de criminologie. Enquêteurs et enquêtés se rejettent la responsabilité de cette rupture. Au Moyen-Orient, catholiques et orthodoxes resserrent les rangs pour faire face à la délicate conjoncture actuelle. Le cardinal Sandri en a parlé avec deux patriarches en Égypte. Une paroisse ferme ses portes à New York. Le bâtiment fondé en 1841 par les Pères français de la Miséricorde est un petit joyau architectural, mais il est en très mauvais état. Pourtant, la mission va continuer, nous a assuré le curé. L'audience générale ce mercredi, Benoît XVI a donc proposé une nouvelle catéchèse pour le temps de Noël. Devant quelques 2000 personnes rassemblées dans la salle Paul VI, le pape a expliqué le sens du don. Parfois, a-t-il regretté, on cherche à remplacer le cœur et l'engagement du don de soi par l'argent et des choses matérielles. Le don de Jésus lui-même indique la voie à suivre dans les relations humaines afin qu'elles soient guidées par la gratuité et par l'amour. Benoît XVI a par ailleurs invité les fidèles à retrouver l'étonnement face au mystère de l'incarnation, le grand mystère de Dieu, descendu du ciel pour entrer dans notre chair, signe du réalisme inouï de son amour. Le Verbe s'est fait chair. On écoute le pape résumer son allocution en français.
Le mot chair indique l'homme dans son intégralité. Dieu a pris notre humanité pour nous donner sa divinité et nous permettre d'être ses fils. Voici le grand don de Noël. En son Fils, Dieu s'est donné lui-même pour nous. Il nous montre ainsi le modèle du don. Celui-ci ne doit pas se réduire au matériel. La personne qui est incapable de donner un peu d'elle-même donne toujours trop peu. Notre foi ne concerne pas seulement notre esprit et notre cœur, mais toute notre vie. L'incarnation de Jésus est centrale dans notre foi. Laissez-vous toucher par la grandeur de cet événement plutôt que par les aspects extérieurs de la fête.
Et à la fin de l'audience générale, Benoît XVI a publié un nouveau tweet. Suivant l'exemple du Christ, apprenons à nous donner totalement. Qui n'est pas capable de se donner lui-même, donne toujours trop peu. Les francophones de Manhattan ne pourront plus assister à la messe le dimanche à Saint-Vincent de Paul. L'église française du quartier new-yorkais de Chelsea a fermé ses portes le 6 janvier dernier, faute de fonds nécessaires à sa rénovation et face à un nombre insuffisant de fidèles. Première église interraciale de New York, elle accueillait des paroissiens européens, haïtiens, mais surtout africains. Ce lieu de culte était donc également un lieu de rencontre et d'échange. Plusieurs paroissiens refusent de se résigner à la fermeture. Ils ont créé un comité de soutien et ont porté l'affaire devant la justice. Curé de la paroisse depuis 14 ans, le père Gérald Murray se dit triste face à cette perte d'une paroisse. Mais il évoque une décision raisonnable. Le diocèse n'avait pas la possibilité financière de rénover le bâtiment. Le père Gérald Murray, interrogé par Hélène Destombes.
La paroisse Saint-Vincent de Paul appartient à l'archidiocèse de New York et l'évêché a décidé il y a plusieurs ans qu'ils doivent étudier combien de paroisses on doit avoir dans Manhattan. Alors, ils ont examiné les paroisses où il n'y avait pas grande assistance et Saint-Vincent-de-Paul était dans cette catégorie. Il y a aussi la question du bâtiment qui était en mauvais état et il fallait beaucoup d'argent pour faire des réparations et cet argent n'était pas présent dans les caisses de la paroisse. Alors, c'était une grande question pour l'archevêque de décider de fermer les paroisses, mais dans le cas de Saint-Vincent, c'était malheureusement nécessaire.
Étant donné les prix de l'immobilier à Manhattan, il y a également eu des pressions foncières?
Je pense que non, parce que la question de la fermeture de la paroisse n'est pas isolée à ce cas-là. Il y a plusieurs paroisses qui étaient fermées il y a 5 ans, et au futur, probablement, il y a d'autres qui sont fermés. C'est une question aussi de manque de prêtres. Le nombre de prêtres diocésains est bien réduit en comparaison avec il y a 30 ans.
Saint-Vincent de Paul était bien sûr un lieu de culte, mais également un lieu de rencontre et de rencontre entre des personnes de différentes nationalités et de différents niveaux sociaux.
C'est vrai, absolument. En fait, 2/3 des fidèles, le dimanche, étaient des Africains francophones de plusieurs pays. Mais maintenant, le diocèse a indiqué que ces gens-là auront la même opportunité de se rencontrer à la paroisse Notre-Dame, qui est la nouvelle paroisse pour les Français, les francophones. La mission que Saint-Vincent de Paul a accomplie va continuer. Alors la question, c'est pas le bâtiment, c'est la mission. Alors c'est pas une question de rejeter ce qui était, mais de le transférer selon les besoins et les possibilités actuelles.
Quel est votre sentiment à l'heure actuelle après cette fermeture?
C'est une tristesse, bien sûr, de perdre une paroisse, ça c'est vrai. Mais à la fois, je trouve raisonnable la décision de M. le cardinal Dolan et je soutiens ce qu'il a fait. C'est une décision difficile pour le cardinal, mais à la fois, c'est la réalité actuelle.
Vous évoquez donc une mission qui va se poursuivre ailleurs. En même temps, la disparition d'une église dans un quartier, c'est quelque chose de très fort.
C'est très fort, mais le diocèse n'avait pas les possibilités d'investir dans la réparation du bâtiment qui est devenu dangereux pour l'assistance des fidèles. Et dans ce quartier-là, il y a plusieurs paroisses. Alors, c'est pas que le quartier est abandonné. Les gens peuvent aller avec beaucoup d'aise dans une autre paroisse.
Le père Gérald de Meuret, qui a été pendant 14 ans curé de la paroisse Saint-Vincent de Paul à New York. Une rupture qui risque de relancer la polémique sur la pédophilie dans l'Église. La conférence des évêques catholiques allemands a décidé de cesser sa collaboration avec le directeur de l'Institut de criminologie de Basse-Saxe qui enquêtait depuis 2011 sur les abus commis par des membres du clergé. Elle affirme dans un communiqué que cette décision à effet immédiat a été prise pour des motifs graves. Elle demande à l'Institut le remboursement des fonds qui ont déjà été versés. Thomas Chabol.
La décision est retentissante. Le communiqué des évêques sévère. Il affirme que la relation de confiance entre le chercheur et les évêques allemands est anéantie. La conférence épiscopale reproche au professeur Pfeiffer sa façon de communiquer avec les responsables de l'Église. Elle regrette ne pas avoir pu trouver une solution à l'amiable malgré ses efforts. Au printemps 2010, l'Église d'Allemagne s'était attaquée résolument au scandale de pédophilie en mettant en place un vaste plan d'action, plusieurs points. Prévu pour durer jusqu'en 2014, la recherche de l'Institut de criminologie devait porter sur des faits commis entre 1950 et 1980 et sur le comportement de l'Église en tant qu'institution. Christian Pfeiffer a rejeté la responsabilité de cette rupture sur certains prélats qui lui auraient demandé de leur soumettre ses recherches pour approbation avant une éventuelle publication. Il a par ailleurs laissé entendre que plusieurs diocèses auraient procédé à des destructions intentionnelles d'archives ayant trait à son étude. Depuis la crise de 2010, pourtant, l'Église d'Allemagne semble avoir opté pour la transparence. En novembre dernier, une étude scientifique réalisée par un autre chercheur indépendant, spécialiste en médecine légale, a été rendue publique sans incident. Cette étude indiquait que seuls quelques cas d'abus signalés étaient liés à une pathologie psychologique, comme la pédophilie. Toujours aussi convaincue de l'utilité d'une enquête criminologique sur ce dossier, la conférence épiscopale recherche à présent un nouveau partenaire pour relancer ce travail de manière approfondie et transparente.
Et en France, l'ancien vicaire de la cathédrale d'Angoulême est accusé d'abus sexuels. L'abbé Patrick Brault doit comparaître devant le tribunal correctionnel pour agression sur des jeunes filles mineures. Le vicaire, qui est soutenu par de nombreux fidèles de sa paroisse, a reconnu des gestes déplacés, mais il nie avoir commis des agressions sexuelles. Je vous en parlais hier dans ce magazine. Une délégation d'évêques catholiques occidentaux se trouve jusqu'à jeudi en Terre Sainte dans le cadre d'une visite annuelle de solidarité. Ils viennent du Canada, d'Espagne, des États-Unis, d'Allemagne, de France, d'Angleterre ainsi que du Pays de Galles et d'Islande. Ils désirent exprimer la communion de l'Église universelle avec les communautés chrétiennes de Terre Sainte et montrer leur sollicitude avec les personnes souffrantes et vulnérables. Monseigneur Moussa El-Hadj, nouvel archevêque des Maronites de Terre Sainte et de Jordanie et exarque patriarcal de Jérusalem, de Palestine et de Jordanie, revient sur l'importance de cet échange. Au micro de Manuela, à Fidji.
Comme avec nous en Terre Sainte ici, on est là pour répondre à toutes les questions. Et comme ça, ils peuvent, eux, dire à tous les catholiques partout dans le monde quelle est la situation, la vraie situation qui se trouve ici pour les chrétiens en Terre Sainte, toutes les églises catholiques, orthodoxes, protestantes, qu'est-ce qui se passe entre nous ici et avec nous, et quels sont les problèmes et comment faire pour résoudre ces problèmes, dire la vérité de ce qui se passe ici en Terre Sainte et être objectif et pas subjectif. Ça nous donne de l'espérance, ça nous fortifie pour rester ici et pour dire aux gens, nous ne sommes pas seuls, il y a toute l'Église est avec nous, il nous encourage pour que nous résistions et nous restions ici dans cette Terre Sainte.
Les évêques viennent exprimer la sollicitude de l'Église pour les personnes souffrantes et vulnérables. De qui parle-t-on exactement dans le cas de la Terre Sainte ?
Je parle par exemple des chrétiens ou bien des arabes. Ils ne se trouvent pas chez eux, surtout pas les catholiques du West Bank ou bien de la Cisjordanie, que maintenant ils connaissent un peu d'indépendance et de liberté. Au niveau des maronites en Terre Sainte, c'est-à-dire en Galilée, je parle avec eux, ils sont bien installés, mais ils ne sont pas contents. Ils veulent changer ou bien ils veulent voyager d'ici et quitter ce pays et faire émigrer. Un autre problème qui dure depuis 1948, ce sont les maronites de Kfar Biraam, c'est-à-dire le village qui a été déplacé, qui a été bombardé. Jusqu'à maintenant, ils attendent depuis 64 ans de retourner dans leur village et s'est défendu. Ils sont partout, à Haïfa, à Nazareth, ils veulent retourner dans leur village. Ce sont des gens qui souffrent et qui veulent leurs droits. Ils voient tout, ils voient leur village, leur terrain, mais ils n'ont pas le droit d'y aller, d'y accéder là-bas.
La communauté maronite est présente également en Syrie. Quelles sont les nouvelles qui vous parviennent de cette communauté ?
La communauté maronite compte entre 50 et 55 000 fidèles. Ils se trouvent dans la zone, disons, de Oued el-Nassar, c'est-à-dire la zone des chrétiens, à côté du Liban. Ils vivent dans une situation très agitée. Ils sont menacés. Alors, il y a des gens qui ont quitté pour chez leurs parents au Liban ou en Jordanie, ou bien ils sont descendus sur la côte vers Tartous, là où il y a un peu de paix là-bas. Mais la situation est dramatique. On les entend quelquefois dire, on ne sait pas ce qui va se passer pour nous demain ou après-demain.
On l'a bien compris, le Moyen-Orient vit une période d'incertitude et d'inquiétude. On a l'impression, en écoutant les divers témoignages qui nous parviennent, que ce soit d'Égypte, du Liban, de Syrie, de Terre Sainte, etc., que la situation est extrêmement préoccupante. On sent un certain pessimisme par rapport à l'avenir. Est-ce que vous partagez ce sentiment ?
Qu'on appelle le printemps arabe. Ça ne se voit pas vraiment que c'est un printemps. Nous sommes avec la liberté, nous sommes avec la justice, nous sommes avec les élections libres, tout ça. Mais c'est ce qui se passe maintenant vient au détriment des chrétiens. Il y a des persécutions contre eux, des persécutions, disons, déclarées sur les radios, sur les télévisions, partout. Ils disent que ce sont des gens qui ne sont pas des gens fidèles, il faut faire la guerre contre eux. Mais moi, je vois, d'un point de vue chrétien, nous devons supporter. Malgré toutes les persécutions, je crois que l'Église ou bien les fidèles en Jésus-Christ doivent savoir que le jour de la victoire, pas la victoire mondaine, mondiale, la victoire, c'est-à-dire du bien contre le mal, de la lumière contre les obscurités, va gagner. Nous avons l'espoir qui nous vient de l'Évangile, Jésus-Christ qui nous dit « N'ayez pas peur, je suis avec vous » et vraiment il est avec nous. Malgré toutes les choses pessimistes maintenant, nous voyons des choses aussi positives et fleurir dans ce qui se passe ici en Orient, surtout dans les pays arabes.
C'était le nouvel archevêque des Maronites de Terre Sainte et de Jordanie. Pour sa part, le cardinal Leonardo Sandri poursuit jusqu'à vendredi sa visite en Égypte, un pays qui a connu ces derniers mois de nombreux soubresauts et où la situation demeure incertaine, notamment pour l'importante minorité chrétienne. Depuis son arrivée dimanche soir, le préfet de la Congrégation pour les Églises orientales a eu des rencontres à caractère écuménique avec le patriarche grec orthodoxe Théodore II et avec le nouveau patriarche copte orthodoxe Tawadros II. Des rencontres cordiales, indique la délégation du cardinal qui a transmis à ses interlocuteurs les salutations du pape. Les deux patriarches ont insisté sur la nécessité pour les chrétiens d'unir leurs forces face à la situation régionale. Le patriarche copte a indiqué qu'il suivait avec la plus grande inquiétude l'évolution du conflit syrien. En revanche, les relations sont plutôt bonnes avec le président égyptien Mohamed Morsi. Des ministres de son gouvernement ont assisté aux célébrations du Noël copte. Le patriarche grec orthodoxe Théodore II, qui a exprimé son admiration pour Benoît XVI, a brossé pour sa part un sombre tableau de la situation égyptienne. Les problèmes sociaux sont graves, le chômage notamment, et l'avenir est incertain. Quant à la présence des chrétiens, elle s'affaiblit. Une délégation de patriarches orthodoxes a récemment été reçue par le président de la Commission européenne à Bruxelles et par le président du Conseil européen pour évoquer la situation des chrétiens au Moyen-Orient. Elle entend demander une audience au président américain Barack Obama. Le drapeau britannique a été hissé mercredi matin sur l'édifice de l'hôtel de ville de Belfast à l'occasion de l'anniversaire de l'épouse du prince William, Kate. Début décembre, la municipalité de la ville avait décidé de ne plus le faire flotter en permanence, ce qui a suscité des violentes protestations. La nuit de mardi à mercredi a encore été émaillée de violences de la part de protestants loyalistes farouchement attachés à leur identité britannique. Des centaines de manifestants masqués se sont à nouveau affrontés aux policiers anti-émeutes, jetant pierres, balles de golf, cocktails molotov et fumigènes en direction des forces de l'ordre. Le premier ministre nord-irlandais Peter Robinson a indiqué que des représentants de divers partis unionistes se rencontreraient jeudi à Stormont, siège du Parlement de Belfast, pour évoquer les incidents. L'Irlande du Nord a été secouée jusqu'en 1998 par des violences intercommunautaires entre loyalistes protestants et républicains catholiques partisans d'un rattachement avec la République d'Irlande. Depuis, un gouvernement biconfessionnel a été mis en place, mais des violences éclatent sporadiquement, rappelant la persistance des divisions entre les deux communautés. Marie Duhamel.
Depuis le 3 décembre dernier, les protestants loyalistes à la couronne d'Angleterre sont dans les rues. Ils s'insurgent contre une décision de la mairie de ne plus hisser systématiquement le drapeau britannique. Cela semble anecdotique mais soulève de très vieilles passions, la peur de voir l'Irlande du Nord se rattacher à la République irlandaise. Robin Wilson est chercheur indépendant, militant pour la démocratie en Irlande du Nord.
La violence reste un problème en ce région à cause de la manque de l'acceptance des valeurs universelles de l'Europe moderne. La démocratie, les droits humains, ces valeurs ne sont pas solides en Irlande du Nord. Et il y a une tendance ici d'aller dans les rues et puis assez simplement d'engager la violence, y compris avec la police. Il y a un grand problème d'une culture de l'intolérance.
Dimanche, des leaders politiques et protestants ont engagé des discussions pour mettre un terme à la violence. Ce mercredi, jour anniversaire de la duchesse de Cambridge, le drapeau britannique sera à nouveau hissé dans le ciel au-dessus de la mairie de Belfast. Les élus espèrent bien que cela suffira à calmer les esprits.
Voilà, c'est donc chose faite. Le prince Albert II de Monaco et son épouse Charlène seront reçus par Benoît XVI au Vatican dans la matinée du 12 janvier, annoncé le bureau de presse du Saint-Siège. Le prince est déjà venu au Vatican en décembre 2005, un mois après son accession au trône, puis en octobre 2009. Selon la constitution de 1962, la religion catholique, apostolique et romaine est religion d'État à Monaco. Aux Philippines, des centaines de milliers de chrétiens ont suivi la traditionnelle procession du Nazaréen noir à Manille et dans d'autres villes de l'archipel. Depuis la basilique mineure de Quiapo, où elle est abritée, la statue du Christ portant sa croix a parcouru les rues de Manille sur un char. Les témoins parlent de cohues indescriptibles, chacun voulant toucher la statue. Cette procession annuelle est l'une des principales manifestations de dévotion populaire catholique aux Philippines. Cette tradition remonte au début du XVIIe siècle, lorsque la statue de bois a été épargné par les flammes de l'incendie qui avait éclaté à bord du navire pendant son transport du Mexique à Manille. La statue a été noircie par le feu, d'où ce surnom de Nazaréen noir. La statue qui a résisté à deux autres incendies qui ont dévasté la basilique de Quiapo au XVIIIe et XXe siècle, à deux violents séismes et au bombardement de Manille en 1945. Les fidèles suivent souvent la procession pieds nus en souvenir du calvaire de Jésus. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur Facebook.